RCF. RCF Finistère, une fois pour tous.
Dans cette émission Une fois pour tous sur RCF, nous poursuivons notre découverte, notre parcours pas à pas dans l'exhortation du pape François consacrée à la famille et intitulée « La joie de l'amour » avec Joël et Max Pénard. Ils sont tous deux responsables de la pastorale des familles dans le diocèse. Alors pour cette seconde émission, nous allons regarder, pour comprendre un peu la dynamique générale, le plan de cette exhortation apostolique. Alors, il faut dire, avant de parler du plan et de regarder un peu chapitre par chapitre cette exhortation apostolique, que on peut dire que le préambule de ce texte du pape François, La joie de l'amour, donne le ton, en fait.
C'est le désir, il dit que le désir de famille reste vif, mais il y a vraiment une grande complexité dans les situations qui ne permet pas de trancher par des solutions applicables à tous. Et d'ailleurs, il nous fait une mise en garde. Je vais lire le texte tel qu'il est dans l'exhortation. Entre le désir effréné de tout changer sans réflexion suffisante et la prétention de tout résoudre en appliquant des normes générales, il en appelle au travail de l'esprit. Et d'ailleurs, il pense que des solutions adaptées aux cultures locales et aux défis particuliers peuvent être prises en compte.
Voilà, on va regarder donc un peu les différents chapitres et ce qu'ils contiennent avant de s'arrêter particulièrement dans cette émission au chapitre 4. Alors, le premier chapitre, c'est un peu, on peut dire, des fondations. Et le pape a écrit, a bâti cette exhortation à partir de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on trouve dans le chapitre 1.
C'est à la lumière de la parole de Dieu et le titre du chapitre 1. La parole de Dieu est considérée comme la compagne de voyage, capable de montrer le but, y compris d'ailleurs pour des familles qui sont en crise ou confrontées à des souffrances. C'est vraiment ouvert à tous. Et c'est là d'ailleurs qu'il dit que la famille n'est pas un idéal abstrait, mais une œuvre artisanale.
Et on voit d'emblée qu'il le dit au numéro 8, la Bible abonde en famille, en histoire d'amour et en crise familiale depuis la première page où entre en scène la famille d'Adam et Ève avec leur cortège de violence, mais aussi avec la force de la vie qui continue. Et il enchaîne avec le Nouveau Testament en nous invitant à réfléchir sur la construction des deux maisons construites sur le roc et sur le sable. Et il nous dit, sur le roc, il nous invite à entrer avec le psalmiste dans le psaume 128. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies, tu ne nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Il est évident que la crainte n'est pas la peur telle qu'elle est construite de cette manière, mais le craignant Dieu, celui qui a confiance en Dieu. Voilà. Et il nous promet le bonheur.
Alors, on continue de regarder le plan de cette exhortation. Nous sommes au chapitre 2, où on trouve une description des réalités et aussi des défis, on peut dire, de la famille aujourd'hui.
Oui, il expose là les diversités de situations des familles en rejoignant les réalités vraiment concrètes de la vie des familles, toujours dans la culture marquée par la culture locale, marquée par des ombres et des lumières, comme toujours. Mais je voudrais à cette occasion reprendre la phrase du paragraphe 53 qui je trouve, est très importante pour comprendre toute l'exhortation. Il dit « La force de la famille réside essentiellement dans sa capacité d'aimer et d'enseigner à aimer. Aussi blessée soit-elle, une famille pourra toujours grandir en s'appuyant sur l'amour. » Alors, je trouve que ça, c'est très fort parce que ça ouvre vraiment à l'espérance à toutes les familles.
On continue d'avancer dans notre regard sur cette exhortation apostolique. Le chapitre 3 est intitulé « Le regard posé sur Jésus » et il parle de la vocation de la famille. On peut dire que c'est un peu un chapitre synthèse.
C'est un chapitre synthèse sur les enseignements de l'Église à propos du mariage et de la famille, bien sûr à la lumière du Christ et de l'Évangile, qui met le mariage au rang de signe divin de l'amour du Christ pour l'Église dans une alliance trinitaire.
Et là, on voit bien, il rappelle que le sacrement du mariage n'est pas finalement une convention sociale, un rite vide, ni le simple signe extérieur d'un engagement, mais vraiment un don qui peut nous sauver, et qui aide en tout cas le couple à grandir l'un avec l'autre, et ensuite à nourrir la famille.
Alors nous poursuivons avec une partie et des chapitres 4 et 5 qui ont une place aussi particulière dans l'exhortation apostolique. On pourrait dire ils sont plus doctrinaux. Alors le chapitre 4, on va s'y arrêter longuement, mais disons-en quand même quelques mots. Il part de l'hymne à l'amour pour ce chapitre.
Voilà, il prend le texte de saint Paul, l'hymne à l'amour, ou aussi dit appelé hymne à la charité, où il étudie l'une après l'autre les phrases de cet hymne, qui sont des attitudes à cultiver pour faire grandir l'amour. C'est vraiment une leçon pour apprendre à aimer.
On continue. Dans le chapitre 5, le pape invite à la fécondité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Eh bien, il nous invite à accueillir la fécondité sous ses multiples formes. On pense souvent à la fécondité de l'enfant que le couple attend dans son parcours de vie. Mais c'est aussi une fécondité beaucoup plus large qui concerne des formes multiples comme un don de Dieu.
Et il dit « l'amour donne toujours la vie ». Et il y a des passages qui sont très sensibles sur la grossesse, par exemple, où il dit il invite les jeunes femmes à protéger la joie intérieure qui les anime durant cette période extraordinaire. Il a une délicatesse et une force qui nous bouscule. Mais il parle aussi dans ce chapitre non seulement du début de la vie, mais il parle aussi de la fin de la vie, en nous invitant à ne pas entrer dans cette culture du rebut, en accueillant les personnes âgées comme un pont entre les générations et qui nous donne le sens de l'histoire. Et ça, c'est extraordinaire. Il pense aussi à la famille élargie. Tout le monde ne se marie pas et peut être aussi fécond. Et ça, c'est absolument extraordinaire.
Alors nous poursuivons, nous sommes maintenant au chapitre 6. Je le rappelle, cette exhortation apostolique du pape François, la joie de l'amour, est le fruit de deux sessions de synode des évêques et des experts et une grande consultation mondiale. Et là, le pape s'arrête sur ce qu'on peut appeler des perspectives pastorales. Alors là encore, est-ce que vous pouvez expliquer de quoi il parle quand on dit perspective pastorale?
Alors, oui.
Voilà. Eh bien, je pense que perspective pastorale, parfois les mots sont un peu compliqués pour certains, mais il fait appel à cette image du pasteur qui prend soin de ses brebis. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça dénote une attitude. Et il nous demande donc dans ses perspectives, c'est-à-dire qu'il nous montre le chemin sur différents plans. Et il nous demande d'accompagner tout ce qui va aider à grandir, que ce soit dans le couple, c'est-à-dire toute cette partie qui va rejoindre justement la construction du couple, c'est-à-dire la préparation au mariage, et tout en gardant toujours cette pastorale du lien, c'est-à-dire le lien entre avant, pendant et après le mariage. On ne prépare pas seulement au mariage, on prépare la vie conjugale et la vie familiale. Voilà. Et ensuite, on prend soin de ce parcours qui va justement peut-être essuyer quelques difficultés, mais finalement, c'est cet accompagnement qui va, en tant que pastorat des familles, justement, c'est de prendre soin de toutes ces phases un peu parfois délicate et difficile aussi.
Le chapitre 7, on peut dire que c'est un peu une espèce de suite logique et il est très concret aussi. Et là, il parle de l'éducation des enfants. Que dit le pape à ce propos?
L'éducation des enfants, il insiste beaucoup sur le rôle des parents. Les parents sont responsables de l'éducation des enfants. de l'éducation à la vie, de la transmission de la foi. Et il insiste aussi beaucoup sur l'éducation sexuelle qu'il donne comme une priorité. Et en pensant que notre monde a vraiment besoin de cette dimension aujourd'hui.
Nous avançons dans le plan de cette exhortation apostolique. Nous sommes maintenant au chapitre 8. Alors les familles, il faut dire, ne sont pas parfaites. Et c'est pour ça que ce chapitre existe. Il est intitulé « Accompagner, discerner et intégrer les fragilités ». Le pape veut donc prendre en compte la réalité des familles et des réalités qui peuvent être parfois difficiles.
Oui, c'est vrai. Et là, ils mettent un peu en évidence cette gradualité, c'est-à-dire cette progression dans l'intégration des dons de Dieu pour grandir dans la foi. On ne part pas tous du même endroit. Et cet accompagnement, justement, est important et doit prendre en compte tous les éléments positifs que vivent les personnes, malgré les difficultés de la vie, pour les aider à entrer dans un processus de croissance, pour grandir et être de plus en plus proche du Seigneur. Mais je crois que le défi que nous allons avoir, c'est de prendre en compte les difficultés des personnes et de leur montrer le chemin, c'est-à-dire un horizon avec un idéal pour, bien sûr, difficile à atteindre, même ceux qui n'ont pas de difficultés ont du mal, mais leur permettre de tendre vers. Et ça, c'est important dans un monde où les difficultés semblent écrasantes parfois.
Il le fait en reprenant cette année, dans cette année de la miséricorde, cette notion d'accueil bienveillant, pour lequel il donne trois adjectifs forts. Hein. Il dit que c'est immérité, inconditionnel et gratuit. Hein, ce qui vraiment donne à entrer dans cette logique avec beaucoup de simplicité et d'humilité. Et il dit également qu'il faut faire appel à un discernement responsable, personnel et pastoral, tout ça pour dans l'accompagnement, dans le but d'intégrer.
Alors nous en arrivons au dernier chapitre qui est consacré à une spiritualité du mariage et aussi une spiritualité familiale. On peut dire que là aussi on est sur un chemin.
Absolument, sur un chemin. On pourrait même dire que ce chapitre 9 fait écho au chapitre 1, puisqu'il nous invitait à entrer dans la démarche biblique de la famille. Eh bien, il nous dit que finalement, cette spiritualité, elle n'est pas désincarnée. Elle est vraiment ancrée dans le quotidien. Et je trouve ça magnifique, parce qu'il dit que c'est par des petits gestes concrets, quotidiens, qu'on va faire passer ce divin. Et il nous dit, il nous invite à une spiritualité de l'attention, de la consolation et de l'encouragement. En ce sens, il nous dit, prenons soin les uns des autres, soutenons-nous et encourageons-nous les uns les autres pour vivre et grandir dans l'amour. Moi, je trouve que c'est une belle conclusion.
Sur RCF, votre émission Une fois pour tous, et nous la consacrons à l'exhortation apostolique du pape François consacrée à la famille et intitulée La joie de l'amour avec Joël et Max Pénard, délégué diocésain à la pastorale des familles. Nous allons nous arrêter maintenant longuement au chapitre 4. On l'a évoqué brièvement. Le pape écrit au numéro 90, au tout début de ce chapitre, dans ce qu'on appelle l'hymne à la charité, écrit par saint Paul. Nous trouvons certaines caractéristiques de l'amour véritable. Alors avant de nous y arrêter, je me propose de vous lire cet hymne à l'amour que tout le monde connaît, que l'on lit souvent, notamment dans les mariages. La charité est patiente. La charité est serviable. Elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas. Elle ne se gonfle pas. Elle ne fait rien d'inconvenant. ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. C'est dans les Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, les versets 4 à 7. Alors, revenons sur cet hymne à l'amour, qui parle donc de l'amour dans le mariage, et regardons un peu chacun des mots que l'on trouve dans ce texte et que commande le pape François. La première attitude, la patience.
Comme le Seigneur, lent à la colère et plein d'amour, dans le psaume, c'est la qualité d'un cœur dont la grandeur se manifeste en patience infinie pour chacun d'entre nous. Et il nous invite aussi à nous transformer. Et bien souvent, on voit bien que l'impatience qui nous habite plus fréquemment a plutôt visé à vouloir tout maîtriser et à chercher la perfection. Mais ça mène bien souvent à l'agressivité et finalement, on ne se sent pas très bien.
Oui, l'impatience survient souvent lorsque on exige de l'autre d'être parfait, que les relations soient idylliques. Hein. Et pourtant, l'autre a bien le droit de vivre tel qu'il est. Hein, et c'est une force de lui reconnaître ce droit, hein, même s'il est un fardeau, même s'il me contrarie, et même s'il me dérange.
Second verset, si l'on peut dire, la charité est serviable. Donc, l'attitude de service après la patience.
La patience propre à l'amour n'est finalement pas la passivité, mais elle est action, service. Car aimer, c'est faire le bien.
Et puis, nous continuons. La charité ne fanfaronne pas. Alors, l'amour n'envie pas, on peut dire, d'une autre manière.
La jalousie est souvent un trait qui finalement défigure les relations de proche en proche. Eh bien, l'amour libère du goût de l'envie, de la comparaison qui finalement génère la jalousie.
Dans l'Exode, il y a ce décalogue où il est dit « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. » C'est vraiment un chemin de vie qui permet alors à chacun de parcourir son propre chemin sans être capté par l'autre, envahi par l'autre.
L'amour n'en vit pas et donc il ne fait pas, il ne s'étale pas, voilà, il ne cherche pas à montrer qu'il est le meilleur, le plus fort, etc. Ça, c'est aussi un peu dans la suite, en fait. Hein.
Oui, absolument, dans la domination. On a besoin, parce qu'en fait, chacun a besoin d'être connu. Mais il y a plusieurs manières de vivre, enfin de faire pour cette reconnaissance. Et il nous invite à une attitude plutôt de service.
De service où on ne domine pas l'autre. Hein. C'est en cela que tu disais que ça rejoignait le précédent. Hein. Jésus dit d'ailleurs, dans le domaine du pouvoir, chacun cherche à dominer l'autre, eh bien, il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Hein. Et dans la famille, ça doit aussi s'exercer.
Et donc, l'amour n'est pas arrogant. On ne se grandit pas devant les autres. Et donc, il faut mettre de côté notre orgueil, notre ego, qui parfois nous impose une manière d'être qui nous fait mal.
Alors, on continue hein, à commenter cet hymne à la charité, et où on trouve alors après un autre conseil concernant l'amour qu'on pourrait traduire par le mot amabilité. En fait, vivre un amour aimable.
Oui, quand on disait tout à l'heure qu'on a besoin d'être reconnu, eh bien, cette reconnaissance, elle passe par on a envie d'être aimable. Eh bien, la première école, c'est l'école de la délicatesse. Délicatesse de la gratuité. Et c'est très important de ne pas bousculer l'autre, d'attendre que l'autre ouvre son cœur pour pouvoir lui parler. Et ça demande aussi du temps.
Un regard aimable, c'est un regard qui ne s'arrête pas trop sur les limites de l'autre, hein, qui les accepte.
Et c'est ce qu'on voit parfois le plus rapidement dans la vie quotidienne.
Dans la vie quotidienne, et ça demande vraiment de corriger son regard, de le rendre justement aimable.
Et puis d'être dans d'autres attitudes, plus du côté de l'encouragement, de la consolation, etc. Ça aussi, c'est des conversions à faire, en fait.
Oui, et aussi de se décentrer. De ne pas toujours voir son propre intérêt ou son propre point de vue. Mais écouter l'autre pour s'ouvrir à une autre dimension.
Alors, nous arrivons donc à la suite, justement, la phrase « L'amour ne cherche pas son intérêt hein ». Une invitation à se détacher, en fait.
On peut comprendre que l'amour de soi, c'est quand même quelque chose d'important au point de vue psychologique. C'est une condition importante. D'ailleurs, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc apprendre à s'aimer est une condition pour aimer l'autre au mieux. Mais à condition quand même de se décentrer et de mettre l'autre, d'être bien, de veiller au bien de l'autre pour l'aimer véritablement.
Nous continuons. Et voilà, veiller au bien de l'autre, hein, donc ne pas chercher son intérêt. Et le texte poursuit un amour qui ne s'irrite pas. Alors ça veut dire quoi? Parce que là, on peut aussi dans le quotidien facilement s'irriter des petits défauts de l'autre, avoir du mal à les supporter.
Alors le texte traduit ça par sans violence intérieure. Guérir sa violence intérieure, parce que on sait très bien que lorsqu'on rentre en relation avec l'agressivité, on va susciter uniquement de l'agressivité en face de soi. Il y a un mot qui a été beaucoup utilisé cet an dernier, c'est l'indignation. L'indignation, ça peut aussi être un sentiment positif, hein, en particulier quand il nous porte à réagir devant des injustices graves. Mais ça, si on porte cette indignation en permanence à l'intérieur de soi dans ses relations, elle devient nuisible parce qu'elle rend nos relations très, très critiques, très négatives. D'ailleurs, l'Évangile nous porte à regarder plutôt la poutre qui est dans notre œil plutôt que la paille qui est dans l'œil du voisin. Ça, c'est dans Matthieu. Et le pape termine ce chapitre en donnant deux petits conseils qui sont vraiment concrets. Hein. Ne jamais terminer la journée sans faire la paix en famille, on pourrait dire aussi en couple. Devant toute situation qui est un petit peu tendue, conflictuelle, difficile, avant tout de penser à bénir et à désirer le bien de l'autre. Voilà un chemin qui permet d'atténuer la violence intérieure qui parfois nous habite.
Et puis une autre attitude qui paraît naturelle mais qui est aussi difficile et qu'on trouve dans le texte, c'est bien être capable de pardonner au quotidien dans les petites choses.
Et on sait combien c'est difficile de pardonner quand on a été offensé. Ça n'est pas simple. Comme il nous dit de bénir celui avec qui nous avons des difficultés, eh bien c'est aussi peut-être quand on n'en est pas dans la capacité. Peut-être de dire ce que Jésus a dit sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est-à-dire que si nous ne pouvons pas pardonner, nous pouvons toujours prier pour que Dieu pardonne à celui qui nous a offensés. Et c'est entrer, en fait, finalement, c'est entrer dans une démarche. On ne demande pas, c'est pas héroïque, mais on demande de rentrer dans une démarche, de vouloir, cette volonté de vouloir... entrer en communication positive avec l'autre.
Et donc se réjouir avec les autres.
C'est ça. Se réjouir du bien de l'autre, même si on est parfois dans la difficulté, mais savoir s'émerveiller devant ce qui arrive aux autres de beau et de bien, plutôt que de faire triste mine.
La phrase suivante est forte et parfois on peut avoir du mal à la comprendre. L'amour excuse tout. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ?
L'amour excuse tout, ça peut être effectivement très difficile à accepter parce que il y a quand même des choses qui sont inacceptables et des choses qu'on ne peut pas, qu'on refuse profondément. Hein. Mais il dit qu'il faut se rappeler que les défauts ne sont pas une partie, mais une ne sont qu'une partie de la personne et non sa totalité. Donc il faut vraiment regarder l'autre en pensant qu'il a quelque chose de bon en lui, hein, et qu'il est malgré tout aimable. Et il dit un petit passage aussi dans ce cadre-là sur la diffamation, parce que la diffamation touche gravement la réputation de quelqu'un et crée souvent des torts qui sont difficiles à réparer. Cette excuse systématique va éviter, dans la mesure du possible, que l'on parle de façon diffamatoire de quelqu'un, ce qui peut tuer littéralement.
L'amour, la charité croient tout. Là, on est sur une autre notion qui est une notion importante aussi dans la vie de couple, dans la vie familiale, mais dans la vie en société d'une manière plus générale, c'est-à-dire la notion de pouvoir faire confiance, en fait, se faire confiance les uns aux autres.
Oui, s'il y a de la bienveillance dans l'autre, si l'on sent la bienveillance, eh bien, on va avoir tendance à faire confiance et à être authentique. Donc, le rapport va être beaucoup plus simple. Et on ne va pas chercher à le contrer, à posséder, à le dominer, parce qu'on a peur. Parce qu'en fait, finalement, la peur est un sentiment qui nous habite, et la peur de l'autre. Et vraiment, ça, c'est à convertir. C'est pour entrer dans la confiance.
Une confiance qui ne va pas se limiter à ne pas suspecter l'autre de me mentir ou de me tromper, hein. C'est une confiance qui préserve sa liberté. C'est vraiment sa capacité de vivre sa vie de façon totalement personnelle et autonome, hein. Et d'ailleurs, ça favorise la transparence et la sincérité dans les relations.
Après, eh bien, on est aussi sur, un chemin qui est toujours ouvert, parce que l'amour espère tout. On pourrait dire, envers et contre tout, l'amour espère, malgré les difficultés, malgré les chutes, malgré, etc. Il y a l'espérance comme un chemin, ça c'est aussi important.
Absolument, puisque dans les difficultés, justement, comme on vient de dire, avoir un regard bienveillant, c'est croire qu'il y a une part dans l'autre de bien, et que justement, c'est en suscitant ce bien qu'il a que peut advenir quelque chose de un chemin de croissance, sûrement.
C'est croire que l'autre peut toujours changer, qu'il peut toujours revenir de ses errements, de ses difficultés, de des choses qu'on n'accepte pas de lui. Qu'il peut toujours changer et toujours repartir vers quelque chose de neuf et de vivant.
La dernière phrase, on peut dire, de cet hymne à la charité est forte aussi et peut être difficilement compréhensible si on dit que l'amour, la charité supporte tout. On va dire, il y a quand même des limites, on pourrait dire ça.
Oui, et pourtant, le Christ nous a montré l'amour jusqu'au don de soi, et c'est quand même un peu difficile. Mais le pape François introduit dans son texte un sermon magnifique de Martin Luther King, et je trouve ça très beau. Il dit « Le fort, c'est celui qui peut rompre avec l'engrenage de la haine et du mal ». Et il insiste pour dire que finalement, cultiver cette force de l'amour en famille, eh bien, peut transformer le monde.
Eh bien, merci à tous les deux d'être venus nous parler de cette exhortation apostolique du pape François, la joie de l'amour. Et nous nous retrouverons pour continuer de découvrir ce texte pas à pas avec vous.